VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 25 avril 2016. Au sommaire ce soir...
Burundi, la Cour pénale internationale ouvre un examen préliminaire sur les récentes violences.
Un nouveau report du retour de Riek Machar à Djouba. Il est attendu demain dans la capitale du Soudan du Sud.
Course à l'investiture du Parti républicain ici aux États-Unis, les candidats Ted Cruz et John Kasich font alliance contre leur rival Donald Trump.
Le monde de la musique en deuil, Papa Wemba est mort.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Burundi, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a annoncé ce lundi l'ouverture d'un examen préliminaire sur les violences commises dans ce pays depuis avril 2015. Maëlys Hegel.
Face à la multiplication des meurtres et des cas de torture au Burundi, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a annoncé lundi l'ouverture d'un examen préliminaire. C'est l'étape préalable à une enquête sur les violences commises dans ce pays depuis avril 2015. Celles-ci ont fait plus de 500 morts, sans compter de nombreux disparus arrêtés par les forces de sécurité. La procureure de la CPI a conclu que ces actes semblaient relever des compétences de la Cour. Ce lundi matin encore, le général Tutsi Athanase Kararuza, conseiller du premier vice-président en matière de sécurité, a été tué ainsi que son épouse dans une attaque à Bujumbura. Depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature à un troisième mandat en avril 2015, le Burundi est plongé dans une grave crise. Le président Nkurunziza est accusé par l'opposition, la société civile et une partie de son camp d'avoir violé la constitution et l'accord d'Arusha qui a mis fin à la guerre civile en 2006.
Et Burundi toujours, un accident de la route a tué plus de 20 lycéens et accompagnateurs. Le camion qui les transportait s'est renversé la nuit passée alors que les élèves rentraient d'une visite dans un collège. On compte également une centaine de blessés.
République démocratique du Congo, 4 étrangers proches de l'opposant Moïse Katumbi ont été arrêtés hier dimanche lors d'une manifestation contre le pouvoir à Lubumbashi. Un Américain figure parmi les interpellés, précisent les autorités. Ils ont été transférés à Kinshasa. Plusieurs centaines de manifestants était dans la rue hier aux côtés de l'ancien gouverneur Katumbi.
Au Tchad, des leaders de l'opposition dénoncent des intimidations de la part du régime pour décourager toute velléité de contestation après la réélection du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans. Le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, et l'ex-premier ministre Joseph Djimrangar Dadnaji affirment que sa victoire est fêtée à coups de canons et d'armes de guerre dans toutes les grandes villes.
Le chef d'état-major de la rébellion sud-soudanaise est arrivé ce lundi avec une centaine de soldats à Djouba, mais leur chef, Riek Machar, a été décalé dans son retour à Djouba. Et il doit arriver demain mardi, Bagassi Koura.
Le chef d'état-major de la rébellion, Simon Gatou-Edoual, est arrivé à l'aéroport de Djouba en provenance de Gambela, dans l'ouest de l'Éthiopie. Il a été accueilli par le chef de la garde présidentielle, qui est comme lui, sous le coup de sanctions des Nations Unies. « Nous sommes ici pour mettre en œuvre l'accord de paix », a indiqué Gatoué, alors que ses hommes étaient amenés dans des bus de l'armée et leurs armes chargées dans des camions. Riek Machar est attendu depuis le 18 avril à Djouba, où il doit former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir dans le cadre de l'accord de paix signé le 26 août 2015. La garde rapprochée de Machar, forte de 195 soldats et collaborateurs, devrait être acheminée en deux fois à Djouba. Après plusieurs reports, Riek Machar est attendu à Djouba ce mardi.
Remous politique au Kenya à l'approche de la présidentielle de 2017. Des leaders de l'opposition ainsi que quelques centaines de leurs partisans ont tenté de pénétrer dans les locaux de la commission électorale dont ils exigent la dissolution. Ils ont été dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogènes et de coups de semonce.
Le roi de la rumba congolaise nous a quittés. Papa Wemba est décédé hier sur la scène d'un festival à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un hommage musical lui sera rendu en Côte d'Ivoire même. Une délégation est arrivée de la République démocratique du Congo pour organiser le rapatriement du corps et nous lui consacrerons un volet spécial en seconde partie d'émission.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, des dizaines de personnes ont manifesté aujourd'hui au Caire contre le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sissi. Une manifestation que la police et l'armée ont dispersée à coups de grenades lacrymogènes. L'AFP rappelle qu'à l'occasion de l'anniversaire de la restitution du Sinaï par Israël en 1982, plusieurs mouvements laïcs et de gauche avaient appelé à manifester contre le pouvoir. Depuis la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi en 2013, toute velléité de protester publique et sévèrement réprimée par les autorités égyptiennes.
En Libye, le gouvernement d'Union nationale a pris le contrôle du siège du ministère des Affaires étrangères au nord de Tripoli. Une mesure qui renforce le contrôle des nouvelles autorités dans ce pays livré aux milices et pouvoirs rivaux depuis des années.
Et toujours concernant la Libye, Washington s'est dit favorable au déploiement de patrouilles de l'OTAN au large du pays pour tenter de réduire le flux de migrants arrivant en Europe. Barack Obama a dit qu'il était d'accord pour allouer des moyens de l'OTAN. Et c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre italien Matteo Renzi à l'issue d'une rencontre avec le président américain ainsi que les dirigeants français, britanniques et allemands à Hanovre.
Le président américain Barack Obama a annoncé en Allemagne l'envoi de 250 militaires américains supplémentaires en Syrie pour soutenir la lutte contre le groupe djihadiste État islamique. Les précisions de John Linden.
Les 250 soldats des forces spéciales auront pour mission de conseiller et d'assister des groupes rebelles syriens et des forces qui combattent Daesh en leur fournissant, entre autres, du matériel et des renseignements. Ces militaires supplémentaires vont rejoindre la cinquantaine de soldats d'élite déjà sur le sol syrien. Selon M. Obama, leur expertise a été essentielle pour permettre aux forces locales d'exclure l'État islamique de certaines zones clés. Un succès, a-t-il souligné, qui justifie l'envoi de soldats supplémentaires. Pour le président américain, la menace la plus urgente pour toutes les nations, c'est l'État islamique. Et c'est la raison pour laquelle, ajoute-t-il, nous sommes unis dans notre détermination à le détruire. Face au délitement de la trêve en Syrie, M. Obama a par ailleurs appelé dimanche à rétablir le cessez-le-feu et a indiqué s'être entretenu à ce sujet avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Au moins 63 civils sont morts depuis vendredi à Alep, dans le nord du pays.
Les dernières dépêches font état d'un bilan encore plus lourd à Alep. Au total, depuis vendredi, 86 civils ont perdu la vie dans cette ville, coupée en deux depuis juillet 2012, et où les artilleurs des deux bords ainsi que l'aviation du régime tirent sur les habitants. Des combats sporadiques ont opposé les troupes du régime aux forces rebelles et islamistes dans plusieurs quartiers de la ville. Au moins 19 civils ont été tués et 120 autres blessés aujourd'hui dans des bombardements rebelles contre des quartiers tenus par le régime. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cité par l'AFP.
Au Yémen, la coalition arabe qui soutient les forces gouvernementales informe que les djihadistes d'Al-Qaïda ont été chassés d'une capitale provinciale après avoir subi de lourdes pertes. L'opération, samedi, dans la province du Hadramou, dans le sud-est du Yémen, s'est soldée dans ses premières heures par la mort de plus de 800 membres d'Al-Qaïda et de certains de leurs dirigeants et par la fuite d'autres djihadistes, a-t-on appris de même source.
Au moins 7 personnes ont été tuées ce lundi dans un attentat suicide contre un marché de la capitale irakienne, Bagdad, revendiqué par le groupe extrémiste État islamique. Selon des sources médicales et de sécurité irakiennes, l'attentat a également fait 32 blessés. Le groupe djihadiste contrôle toujours de vastes régions d'Irak depuis 2014, malgré la reprise de certains secteurs par les forces irakiennes, aidées par des frappes de la coalition internationale dirigée par les États-Unis.
Deux militants bangladais des droits des gays, dont l'un travaillait à l'ambassade américaine de Dhaka, ont été tués aujourd'hui à coups de machette après une série d'attaques contre des militants et professeurs laïcs, ont indiqué les responsables à l'AFP. 6 hommes sont entrés dans un appartement d'un immeuble de 7 étages du quartier de Kalabagan et ont tué les deux personnes à coups de machette, a précisé à l'AFP le porte-parole de la police de Dhaka, Marouf Hossein Sorder, précisant qu'une troisième personne avait été blessée. Les assaillants ont crié « Allah Akbar, Dieu est grand », selon des témoins interrogés par la chaîne locale Jamuna.
Aux États-Unis, les candidats républicains Ted Cruz et John Kasich ont décidé d'unir leurs forces pour tenter de barrer à leur rival, Donald Trump, la route à l'investiture de leur parti à la présidentielle. Le magnat de l'immobilier a vertement critiqué cet accord. Jacques Aristide.
Cette alliance intervient alors que le milliardaire aux propos provocateurs est désormais le seul des trois candidats républicains encore en lice à pouvoir atteindre le nombre suffisant de délégués pour devenir le candidat du parti à la présidentielle de novembre. Ce pacte Cruz-Kasich est également annoncé juste avant des primaires importantes demain dans cinq États pour lesquels Trump est donné favori. D'où la stratégie de ses deux adversaires de laisser le champ libre à l'autre en fonction des chances de chacun dans un État donné pour rassembler ensemble un maximum de voix anti-Trump. Ils espèrent ainsi empêcher le couronnement du milliardaire à la convention du parti qui désignera le candidat final en juillet. Réagissant sur Twitter, Donald Trump qualifie cet accord de collusion entre Ted le menteur et Kasich qui, dit-il, ne compte qu'une victoire contre 38 défaites. Une union qui est, d'après lui, signe de désespoir et de faiblesse de ses deux adversaires, incapables de le battre.
6 millions de dollars, c'est la somme que la municipalité de Cleveland, dans l'Ohio, a accepté de verser à la famille de Tamir Rice, un adolescent noir de 12 ans abattu en 2014 par un policier blanc qui avait pris son jouet pour une vraie arme à feu.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Et nous passons tout de suite à la Minute Éco avec Bagassi Koura.
Ouverture ce lundi à Abidjan de la 8e session de la Grande Commission mixte et du Forum économique ivoiro-tunisien. À cet effet, le chef du gouvernement tunisien, Habib Essid, a effectué le déplacement d'Abidjan. Plusieurs projets d'accord devront être signés. Jacob Zuma est à Téhéran. Le président sud-africain conduit une délégation d'hommes d'affaires de son pays lors de cette visite d'État. Pretoria veut accroître ses échanges commerciaux avec l'Iran après la levée de l'embargo international contre Téhéran. Les deux pays ont signé 8 accords de coopération dans plusieurs domaines, dont le commerce, l'industrie et le pétrole. La construction de 1403 km d'oléoduc pour transporter du pétrole brut de Hoima en Ouganda au port de Tanga en Tanzanie devrait s'achever en juin 2020. C'est ce qu'a annoncé le professeur Sospeter Muhongo, le ministre tanzanien de l'énergie et des ressources minérales. Quelques 15 000 emplois devront être créés lors de la construction de cet oléoduc d'une capacité de transport de 200 000 barils par jour. Et puis enfin, sachez que l'Arabie Saoudite va vendre en bourse au moins de 5% du géant pétrolier Aramco et se doter d'un fonds souverain de 2 000 milliards de dollars, le plus important au monde dans le cadre d'un plan de réforme. Le plan présenté par le prince Mohamed comme une feuille de route pour le développement du royaume durant les 15 prochaines années est destiné à diversifier l'économie saoudienne qui dépend à plus de 70% du pétrole.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
La Juventus Turin, championne d'Italie.
Et ce, pour la 5e fois d'affilée, à l'issue de la défaite 1-0 de Naples sur le terrain de l'AS Rome. À 3 journées de la fin, la Juve compte 85 points, soit 12 de plus que Naples et ne peut donc plus être rejointe. Ce 32e Scudetto vient récompenser l'indiscutable supériorité du club piémontais qui avait pourtant laissé partir l'été dernier des cadres tels que Carlos Tevez, Arturo Vidal ou encore Andrea Pirlo.
Ligue des champions, Ronaldo et Benzema dans le groupe madrilène face à Manchester City.
Oui, les deux joueurs victimes de problèmes musculaires la semaine dernière ont été convoqués dans le groupe du Real Madrid pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce sera demain sur la pelouse de Manchester City. C'est ce qu'a annoncé le club madrilène puisque Ronaldo et Benzema figurent sur la liste des 23 joueurs convoqués par Zinedine Zidane.
Éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans.
9 matchs comptant pour le premier tour retour de la CAN des moins de 20 ans étaient prévus ce week-end. L'Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, l'Égypte, le Lesotho, la Libye, le Mali, le Maroc, le Malawi, le Nigeria et le Sénégal étaient exempts de ce premier tour. Ils ont été rejoints au second tour par le Soudan après la disqualification du Kenya, ainsi que par le Burundi et l'Angola suite au forfait de la RDC et du Tchad.
Et la NBA, championnat de basket nord-américain.
San Antonio et Cleveland ont balayé leurs adversaires du premier tour des playoffs. Les Spurs et les Cavaliers n'ont pas fait de détails. Ils ont empoché leur billet pour les demi-finales de conférence en seulement 4 matchs. San Antonio a facilement dominé Memphis et Cleveland de LeBron James a également balayé Détroit. Quant au champion en titre NBA Golden State, il s'est imposé à Houston, mais déplore une nouvelle blessure de sa star Stephen Curry. Golden State a battu les Rockets 121-94, mais a noté la blessure dans le deuxième quart-temps de Stephen Curry, qui s'est blessé au genou droit.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Diriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Mali.
Bien sûr, après des soins à Paris, le président Ibrahim Boubacar Keïta est rentré au pays hier. Son état de santé préoccupait l'ensemble des Maliens. On écoute quelques réactions à Gao avec notre correspondant Boubacar Touré.
Après donc 2 semaines d'absence au Mali pour des raisons de santé, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est entré au Bercail hier dimanche en fin d'après-midi. C'est un IBK apparemment en très grande forme qui a été accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako par son premier ministre et quelques membres du gouvernement. Voici donc la réaction des personnes interrogées.
Moi, je lui souhaite une bonne arrivée. Parce qu'il était malade, il est parti, on l'a vu à la télé. Je pense que il se porte bien actuellement. Vraiment, ils n'ont qu'à voir. On a des problèmes chaque jour. On voit des choses que vraiment on ne comprend pas. Personne ne sait qui est qui maintenant. Vraiment, on est en insécurité.
Ce que moi je vois, il est incapable de gérer le pays. Point bas. Même s'il a la santé. Sa politique même vraiment qui ne marche pas au Mali. Nous, on n'a rien vu. On n'a rien vu comme les changements. Tout le monde plaigne là où on est. Rien ne marche ici à Gao. Rien.
Bon, je suis content de revoir le président revenir au Mali en très bonne santé. Je lui souhaite aussi davantage qu'il ait de la santé, la force et le courage de diriger le Mali. Moi, je ne trouve pas de difficultés. Hein. Seulement, les gens ne sont pas en train d'accompagner le président de la République et ils n'ont qu'à soutenir le président pour que le Mali aille en paix.
Je lui souhaite bonne guérison, que Dieu nous donne la paix. Parce qu'avec le bricage, avec l'embouteillage, jusqu'à présent, on est dans la boue, on ne comprend rien. En tant que des Maliens, des citoyens, on a une autre inquiétude. Le président doit faire face au Nord. Nous sommes là, nous on ne dort pas bien, donc il y a une maladie qui est là, qui cherche une solution pour le Nord du Mali.
Tout d'abord, je lui souhaite propre rétablissement.
L'application de l'accord. Mais pourquoi pas jusqu'à présent? Il y a quoi?
Mais si, il y a quelque chose au-dessous quand même. On doit nous faire savoir en tant que vraiment Maliens. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de services qui ne sont pas présents au Nord. Nous vivons vraiment dans des conditions très, très, très difficiles. On ne peut même pas parcourir 5 km sans être attaqué, sans être pillé par des bandits. Tout le monde est armé. On ne peut même pas faire la différence entre les militaires et les civils. Tout le monde porte la tenue. L'application de l'accord, c'est la seule solution qui peut résoudre tous ces fléaux.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Pour encourager les motoculteurs dans le retour au coton conventionnel, l'interprofessionnel du coton du Burkina a décidé de passer de 225 à 235 francs CFA, le prix d'achat du kilogramme. Et en perspective pour cette nouvelle campagne cotonnière, il est prévu une production globale de 700 000 tonnes. Notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Après l'annonce de l'abandon de la culture du coton génétiquement modifié, les responsables de la filière coton au Faso ont voulu marquer l'esprit des producteurs avec l'augmentation du prix d'achat du kilogramme. Écoutons Georges Yamego, il est le secrétaire général de l'AICB, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina.
Le prix d'achat planché a été fixé comme suit. Coton premier choix, 235 francs par kilogramme. Coton deuxième choix, 210 francs par kilogramme.
Avec ce retour au coton conventionnel, les producteurs vont encore devoir se réadapter. Yakuba Koura, le vice-président de l'Union des producteurs de coton du Burkina, revient ici sur les débuts du coton OGM et les perspectives. On l'écoute.
Il y avait les anti-OGM qui étaient là, qui disaient, si tu rentres dans un champ CGM, tu deviens stérile. Quand les animaux broutent les feuilles du coton CGM, les animaux vont disparaître. Donc, on a été courageux pour rentrer dans cette technologie-là. Mais nous sommes conscients que si le coton ne se vend pas bien, si vous produisez, c'est pour vendre. Nous, en tant que paysans, si tu sais toi-même ton coton que tu vas produire là, on va l'acheter au deuxième choix. On sait qu'il y a une différence de au moins 25 000 francs. Ce n'est pas facile. Nous-mêmes, on sait que ce n'est pas facile. Si tu prends une habitude, le retour n'est pas facile. Mais nous allons y arriver. Il y a des mesures d'accompagnement, comme ils l'ont dit ici.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, au Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
En finir définitivement avec le paludisme, c'est le thème de la Journée mondiale de la lutte contre la malaria, maladie qui ne cesse de faire des ravages dans plusieurs pays du monde et en Afrique subsaharienne en particulier. Dans son rapport, l'Organisation mondiale de la santé mentionne son plan de lutte 2016-2030, dont l'objectif est d'éradiquer la maladie dans au moins 10 pays d'ici 2020. Pour un état des lieux, Nani Talani a joint à Genève le docteur Pascal Ringwald du programme de l'OMS contre le paludisme.
Et tout à fait, on estime qu'il y a à peu près 214 millions de cas de paludisme à travers le monde en 2015. Et on estime le nombre de morts à 438 000. 90% de ces morts surviennent en Afrique et en particulier chez les enfants de moins de 5 ans. À peu près 290 000 enfants meurent avant d'atteindre l'âge de 5 ans en Afrique subsaharienne, et ça, c'est dû au paludisme.
Qu'est-ce qui fait que l'Afrique subsaharienne soit le pays, soit la partie la plus touchée dans le monde par le palud?
Il y a surtout déjà un problème d'écologie, il y a beaucoup de vecteurs, il y a une très forte densité de population et il y a beaucoup de paludisme qui circulent, donc ce qui fait que plus vous avez d'individus porteurs, plus vous avez des moustiques, plus le nombre de cas augmente. C'est une balance entre le potentiel des vecteurs et le nombre de personnes qui portent le paludisme.
Quels sont les pays africains les plus durement touchés par le paludisme?
Oui, tout à fait. Les deux qui sont en tête de liste sont le Nigeria et la République démocratique du Congo, qui comptent le plus de cas. Enfin, ce sont les pays qui ont le plus grand nombre de cas parmi les pays africains.
Est-ce qu'on peut savoir quelles avancées ont déjà été faites dans la lutte contre le paludisme?
Oui, bien sûr. On a, sur les 15 dernières années, on a énormément augmenté la lutte antivectorielle. On a augmenté le nombre de personnes qui dorment sous moustiquaire. Maintenant, à peu près plus de 50% de la population a accès à des moustiquaires imprégnés, comparé à 2% seulement en 2000. Ça, c'est déjà une très grande avancée. En 2014, il y a 116 millions de personnes qui ont été protégées par des imprégnations intradomiciliaires avec des insecticides, alors qu'il n'y avait que 6% auparavant. On a aussi augmenté le nombre de diagnostics, c'est-à-dire que les gens ont eu plus facilement accès à des diagnostics. On a eu les augmentations de vente des diagnostics de tests rapides est passé de 46 millions en 2008 à 314 millions en 2014. Et aussi des gens beaucoup plus accès au traitement. Il y a eu 337 millions de traitements à base d'artémisine, des combinaisons à base d'artémisine qui ont été délivrées en 2014 par rapport à seulement 11 millions en 2005. Donc vous voyez qu'il y a eu des avancées énormes dans la lutte contre le paludisme rien qu'à travers ces quatre interventions. C'est comme d'habitude, c'est se rendre relativement vite dans une... Lorsque vous avez une CF qui déclare se toucher un enfant, c'est d'aller très vite dans un centre de santé, de faire un diagnostic et de se faire traiter rapidement si les tests sont positifs. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est d'avoir une prévention antivectorielle. Évidemment, dormir sous les moustiquaires. Donc ça, c'est pour la population. Pour les pays, c'est augmenter leur capacité de surveillance et augmenter leur système de santé. Et je pense qu'on peut être relativement positif. On peut avoir un discours relativement positif, étant donné que l'OMS souhaite qu'il y ait 35 pays de plus qui ont éliminé le paludisme d'ici 2030. Donc on est relatif à l'avenir. Mais cela dit, il faut continuer l'investissement. Les donneurs ont beaucoup investi ces dernières années, d'où les très bons résultats. Et il faut que les donneurs continuent à investir dans le paludisme.
On écoutait le docteur Pascal Ringwald du programme de l'OMS contre le paludisme.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
L'annonce de la mort de Papa Wemba a suscité un émoi en République démocratique du Congo et dans le monde. Artistes et autres personnalités réagissent à la mort de cet immense musicien dont les chansons sont devenues des classiques de la musique congolaise. Gary Wele, chroniqueur musical, était avec lui récemment. Il réagit au micro de Roger Muntu.
Papa Wemba, j'étais avec lui mardi à Kinshasa, puisque on s'est vu dans la ville de Kinshasa, on s'est parlé, Papa Wemba m'avait invité, on a été ensemble. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment touché, c'est que, comme vous savez, je suis allé à Kinshasa, moi aussi, pour enterrer mon grand frère, qui était prêtre catholique, qui est succombé pendant l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire pendant la messe. Alors, Papa Wemba, quand il m'a vu, il m'a dit, écoute, monsieur, moi, je m'aimerais mourir comme ton frère.
Celui qu'on appelait le chef coutumier du village Molokai a certes rendu l'âme, mais ce village et son chef resteront à jamais marqués dans les cœurs de ses fans comme Kerwin Maïzo.
Le chef coutumier du village Molokai a rendu l'âme. Le village Molokai, c'est l'acronyme. Chez nous, le sac en raffia, ça s'appelle Molokai. Ça symbolise les villages. Mais le village Molokai, c'est l'acronyme. Dans les quartiers de Matongé, pour moi, c'est à la fois un artiste que j'ai connu, mais c'est aussi un grand frère du quartier qui meurt.
Kerwin Maïzo, qu'est-ce que vous retenez de Papa Wemba?
Je retiens que c'était une voix exceptionnelle. Un des créateurs artistiques de Taïko, il est passé par Issiki Lokolé, Yoka Lokolé, Viva la Musica, Afrika International de Taboulay et le Molokai International.
La chanson Okoningana, un titre qu'on retrouve dans l'album Fulangenge de Papa Wemba, le Kuruyaka, est certes le morceau qui aura le plus façonné le succès du rappeur Tony Saad, qui se souvient de l'artiste.
Alors, en tout cas, pour ma part, c'était un mentor. J'étais déjà un fan de lui avant de collaborer avec lui. Pour commencer, je pense que c'est quand même le précurseur d'une génération. C'est un petit peu comme Koffi Olomidé. C'est des draineurs de style, à mon avis. Et je pense qu'il n'y a aucun artiste de la RDC qui me contredira. Et puis, mondialement aussi, il faut savoir que Papa Wemba avait un talent hors pair. Il était demandé, sollicité par des artistes internationaux tels que Céline Dion, etc., de Peter Gabriel qu'on connaît, avec qui il a pu réaliser l'album Émotion. Je pense qu'on ne l'oubliera pas et Papa Wemba reste et demeure le plus grand de chez nous.
Aujourd'hui à 20h temps universel sur VO Afrique et en direct sur Facebook, RM Show spécial hommage à Papa Wemba. Participez au 001 202 619 31 40 ou envoyez-nous un message WhatsApp ou Viber au 001 703 350 37 31.
Encore une fois dans les deux bois. Okoningana, sois comme Bouddha. L'idéal, souviens-toi. Fulangeng et Oscar sur Kinshasa. Papa sera de nouveau le bac à super Akash. À moins que Zala. Pour une son Diki et que Viva la Moussika.
Tony Saad. Bon, ça lui va pas moi. N'a pas la mémoire. Et ça, la caca.
Raza la koye, ma papa.
Bata ya mbaka e. Bapé sa ni étolie. Bolo la suezali ma bé.
C'est la fin de cette édition. On remercie Lionel Gaïma qui assurait la mise en onde, assisté de notre ami Joe Gill à la console. Présentation Morgane Guériac et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos ou 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.